L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Sirène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous,
les particules élémentaires,
que nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que
Das Kapital, il ne dit pas der Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010, à la découverte de nos origines, une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je dois dire que les gens qui m'ont proposé ce poste ce soir ont voulu me faire honneur, sans doute, mais ils m'ont surtout fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir parce que c'est l'occasion pour moi de payer une dette. Cette dette, elle date d'une époque où, dans un moment d'aberration, un collègue anglais m'a proposé de faire une conférence à Oxford sur Dumézil comme héritier de Durkheim et de Mauss. Dans un moment d'aberration apparemment contagieuse, j'ai accepté. Et ayant rejoint ainsi mon niveau d'incompétence, j'ai réalisé la difficulté de la tâche. Et par conséquent, j'ai cherché à compléter mon ignorance et à l'approfondir. Et j'ai découvert le livre de M. Camille Tarot, qui s'appelle l'invention du symbolique.
De Durkheim à Mauss,
l'invention du symbolique. Un très beau livre, très riche, et surtout très précis, à la fois précis, personnel, jamais ennuyeux, qui m'a permis de résoudre ma difficulté sans problème. Par la suite, M. Tarot a récidivé, avec ce magnifique ouvrage que je vous montre là, Le symbolique et le sacré, un petit livre pour les étudiants de première année, que je recommande à tous ici, parce que malgré son volume, qui peut paraître peut-être un peu impressionnant, c'est une lecture aisée, je crois pouvoir dire aisée. On s'y baigne facilement. Ce n'est jamais dans le même fleuve, c'est toujours un propos personnel, clair, disons le propos d'un grand professeur, mais aussi on voit apparaître une pensée personnelle sur la synthèse de ces grands maîtres, Lévi-Strauss, Bourdieu, Gaucher, etc. On voit naître la pensée d'un nouveau maître, c'est pourquoi, sans tarder, je lui laisse la parole, et puis nous lui poserons les questions qui fâchent à la fin de son propos.
Merci de ces paroles excessivement aimables et merci à vous tous de vous être déplacés si nombreux. Donc, entre présent confus et origine perdue, quelques questions autour du sacré. Pour faire sentir rapidement la complexité ou les perplexités qu'inspire cette notion, je crois que le plus simple serait de partir du langage le plus courant, de quelques remarques sémantiques sur les usages actuels de ce mot sacré. Puis je vous ferai sentir après, plus rapidement encore, malheureusement, comment au XXe siècle, dans l'anthropologie en France, se sont noués plusieurs conflits autour de cette notion, et que ces conflits remontent à l'héritage des fondateurs de l'école sociologique française, Durkheim et Mauss. Mais je ne me perdrai pas dans les considérations historiques, sauf pour rappeler quelques grandes lignes, et nous terminerons sur des problèmes transversaux, nous emmenant des origines les plus qu'on peut supposer du sacré jusqu'aux situations actuelles. Actuellement, donc, nous faisons du mot sacré un usage prolixe et confus. Sacré est le participe passé du verbe sacré formé au XIIe siècle et resté en usage depuis, et depuis sans doute le XXe siècle de plus en plus employé non seulement comme adjectif, mais comme substantif, ce qui est un emploi dangereux, car ceci amène précisément à substantialiser ou à hypostasier ce sacré qui est sans doute beaucoup plus divers qu'on ne le voit. Il a évidemment des emplois forts dans le vocabulaire religieux quand il s'oppose clairement à profane. Un temple est un lieu sacré qui ne sera plus sacré s'il est profané. On parlera du feu sacré des Vestales, de personnes sacrées parce qu'elles ont reçu une consécration, et une enquête sur la famille abondante de ce mot révèle des termes ou très techniques ou très institutionnels comme sacrifice, sacrifié, sacrificateur, sacrifiant, sacrilège, sacrement, sacre, sans parler de sacristie. Et ils évoquent la liturgie, le culte, les églises, la monarchie, parfois les tabous, la sainteté. Pourtant, même un catholique fervent ne considérera pas que le sacré collège, le corps des cardinaux, soit aussi sacré que le pain consacré qui est pour lui le corps du Christ. Il y a donc, c'est une énigme aussi, des degrés dans le sacré ou les sacralités même de la même religion. Mais si le mot s'oppose à profane, on l'utilise aussi dans le domaine profane. Sans doute avec quelquefois une note de profanation, comme dans certains jurons, sacre bleu, qui est une euphémisation de sacré Dieu. Le petit Robert remarque d'ailleurs ces usages bizarres du mot. Avant le nom, dit-il, il sert à renforcer un terme injurieux, comme sacré farceur, sacré menteur, ou il désigne quelque chose qui gêne, comme un sacré culot, ou au contraire qu'on admire, comme un sacré talent. Et vous voyez que le mot ici véhicule une ambiguïté qui est faite de répulsion ou d'attraction. Et quand on l'utilise, alors cette fois-ci de façon évidemment métaphorique, dérivée, pour dire que le thé à 5 heures est sacré pour les Anglais, ou peut-être la sieste, ou l'apéritif, ou le week-end à la campagne, ou l'ouverture de la chasse, il garde encore néanmoins cette idée que on n'aimerait pas, ou qu'il ne faut pas toucher à ses pratiques ou à ses coutumes. Il garde cette connotation de quelque chose d'intangible, d'inviolable, de sacro-saint, ou au moins de vénérable. Mais il y a plus paradoxal. Si sacré s'oppose à profane, comment en France peut-on chanter un refrain célèbre, et d'ailleurs que j'ai entendu ce matin même, en venant de mon domicile à la gare, dans ma voiture, où M. Fillon, ayant fait un meeting à Blois, France Info nous a donné la fin de ce meeting, et j'ai entendu « Amour sacré de la patrie » et ce qui pose encore un peu plus de problèmes, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, la Marseillaise, ce n'est pas un hymne religieux. Et donc, que veut dire cet amour sacré de la patrie, sinon qu'il y a peut-être du sacré laïc et non religieux, mais sacré quand même. Le sang impur est beaucoup plus gênant, et il en choque aujourd'hui. Il nous met devant un autre complexe de problèmes de relation sémantique très difficile à élucider, qui est le rapport du sacré et du pur et de l'impur. Si le sang des ennemis est impur, est-il sacré ou n'est-il pas sacré ? Voilà quelques questions que l'on peut se poser. Et je n'ai pas évoqué la protection de la nature, les débats sur la bioéthique, le droit à la vie ou à la conservation de la vie, ou les débats sur l'avortement ou l'euthanasie ou la morale politique, ne serait-ce d'ailleurs comme l'occasion du terrorisme ou des détournements d'otages, où on entend presque inévitablement, dans telle ou telle argumentation, revenir ce terme de sacré. Et alors que même le mot est étrange dans ses usages profanes, il n'est pourtant pas non plus très clair dans ses usages religieux. Une bonne partie du conflit entre les 10 intégristes et la majorité des catholiques qui ont ratifié le Concile de Vatican II tourne autour, quand même, de quelques problèmes de sacré. Les intégristes en font une grosse consommation. Ils pensent non seulement que l'Église catholique est tombée dans l'hérésie moderniste, mais que sa liturgie et sa structure ont été indûment désacralisées. Si peu de Français suivront Mgr Lefebvre faisant l'éloge de la junte argentine, un nombre infiniment plus grand et se dit quand même sensible à l'émotion du sacré, peut-être perdu, qu'il ressentait dans l'usage, par exemple, de la langue latine ou du chant grégorien. Ce sacré-là est assurément un sentiment, cette fois, une émotion, mais de quelle nature ? Est-il l'essentiel du sentiment religieux, ou n'en est-il qu'une partie, ou bien n'est-il qu'un sentiment esthétique, dérivé et introduit dans le religieux ? Le sacré que certains entendront en entendant des cloches, ressentiront en entendant des cloches ou des orgues, est-il le même sacré que le sacré de l'amour de la patrie, pour lequel un Français doit soit voir vivre et mourir, et est-il même le même sacré que celui qu'on invoque pour protéger la vie qu'on ne devrait pas tuer ? Et donc, vous voyez que ce terme est apparemment plastique, contradictoire, profus, diffus, embarrassant, envahissant. Alors ces questions sur la nature et l'origine du sacré ont préoccupé, vous vous en doutez, les sciences des religions, qu'elles soient d'orientation historique, sociologique, ethnographique, psychologique ou psychanalytique, depuis, disons, un bon siècle et demi. Mais c'est un véritable serpent de mer auquel j'ai consacré 800 pages qui me valent sans doute l'honneur de m'adresser à vous ce soir. Alors pourquoi ai-je essayé de clarifier un petit peu dans l'espace de la sociologie française cet énorme débat ? Mon livre est un tournoi comparatif entre 8 auteurs que j'estime particulièrement importants pour tenter de sortir de la confusion. 8 auteurs, c'est très peu, car des dizaines ont parlé du problème. J'ai évidemment essayé de prendre ceux que j'ai estimés les plus importants. Et d'autre part, la liste n'est pas close, et si le cœur vous en dit, vous avez toute liberté d'y introduire d'autres auteurs. La seule règle, c'est comme un tournoi de bridge, c'est que d'une part, on essaie chacun d'évaluer son jeu. On évalue le jeu de chaque auteur pour lui-même. Voilà. Il a droit à être compris, situé, expliqué. Et puis après, on le fait jouer avec tout le monde. Parce qu'il m'est apparu que dans ce vaste débat, pour un tas de raisons historiques, idéologiques, etc., beaucoup de gens émettent des opinions, mais on s'écoute très peu. On est surpris de voir que le dialogue n'est pas toujours le plus grand défaut des hommes de science. Alors, maintenant, partout où je vais, je répète, suite à cette première épreuve de 900 pages, une deuxième proposition que malheureusement je ne réaliserai jamais, mais que je vous soumets quand même. Il y a peut-être une jeune vocation de chercheur dans cette salle, qui sait ? Eh bien, c'est que c'est le projet qui ne coûterait vraiment pas cher à l'Europe, mais qui, je crois, serait d'une très grande utilité. C'est que l'on fasse un livre sur les mêmes principes pour la sociologie allemande et la sociologie ou l'anthropologie anglaise. On pourrait commencer avec Marx, Max Weber, Simmel, etc. Et dans l'espace allemand et en Angleterre, avec les fondateurs de la science des religions, d'ailleurs c'est parti de l'Angleterre, Robertson Smith, Taylor, Frazer, et puis évidemment des auteurs plus modernes comme Radcliffe Brown ou Evans Pritchard ou d'autres. Mais je crois qu'il y a dans chacune de nos grandes cultures socio-anthropologiques européennes une dizaine d'auteurs fondamentaux qu'il faudrait comparer entre eux dans leur espace national, puisque la science du 19e et du 20e siècle est encore largement nationale, surtout dans ce domaine religieux qui est surdéterminé par des enjeux historiques, confessionnels et encore aujourd'hui politiques et identitaires extrêmement lourds et qui ne doivent pas être niés, mais qui doivent d'une certaine façon être neutralisés pour pouvoir voir où est-ce que ça coince et où sont les problèmes récurrents, où sont les impasses faites par les uns et les autres. Et après, me semble-t-il, on pourrait recomparer ces trois apports et je crois qu'on pourrait refonder peut-être les sciences des religions, au moins en déterminant l'urgence de certaines questions ou de certains programmes de recherche. En tout cas, dans l'espace français, et en gros, dans la première moitié du siècle, le conflit dominant dans ce domaine du sacré a été entre les approches objectives lancées par Durkheim et les approches subjectives du sacré. Puis, à partir des années 50, donc dans la seconde moitié du siècle, le structuralisme est arrivé qui a essayé de faire l'impasse sur la notion de sacré, de montrer qu'on pouvait s'en passer pour expliquer les cultures. J'essaierai quand même de vous dire pourquoi je pense qu'il a échoué, suscitant d'ailleurs des réactions, dont la plus importante sans doute est celle de René Girard. Alors posons ces deux séries de problèmes tout de même, parce que je crois que sinon on ne peut pas rentrer dans ces dossiers. Le problème du sacré dans les sciences sociales a été posé par un auteur écossais, Robertson Smith, qui était un homme de génie, mathématicien, professeur à Oxford, qui a écrit un livre, Lectures on the Religion of the Semites, une conférence sur la religion des Sémites, publié à Édimbourg en 1889, qui n'a jamais été traduit en français, ce qui est un grand dommage, mais qui a été lu par Durkheim, qui en a été profondément influencé, même on pourrait dire illuminé à la lecture de ce livre. Et donc les Durkheimiens se sont fait les importateurs de l'anthropologie anglaise naissante et de ces questions du sacré dans l'espace français. Dès 1904, d'ailleurs traduisant un auteur hollandais, mais qui a un nom français, parce qu'il est un descendant de Huguenot, on peut en parler à Montpellier, Champy de la Saussée, dans la préface de son traité d'histoire des religions, extrêmement intéressant, Henri Hubert, un des compagnons de Durkheim, a lancé cette définition lapidaire de la religion comme l'administration du sacré. C'est une excellente définition qu'on peut toujours garder dans sa tête et qu'il faut méditer. De la même année, en 1904, Mauss, dans un texte célèbre sur la vie des Esquimaux, a esquissé la première théorie qu'on peut dire sociétiste du sacré. Il dit, voilà pourquoi les sociétés ont du sacré et du profane. Mais il dit, c'est parce que les Esquimaux ont une double morphologie sociale. La société n'a pas du tout la même forme en été et en hiver. En été, on se disperse par famille. Vous savez que la famille Esquimaux, c'est notre famille nucléaire. Ils ont pratiquement le même régime de parenté que nous. Et chaque famille vit isolément, préoccupée de sa subsistance et d'accumuler pour l'hiver. L'été, au contraire, tout le monde se regroupe. On habite dans des maisons plus ou moins souterraines, creusées là sous la neige. Et puis, il y a une intensité de la vie sociale. On est toujours les uns chez les autres. Il y a des cérémonies, des cultes, des transes, etc. Donc, c'est la concentration sociale, dit Mauss, qui pousse au sacré. Il y a un mode profane de la vie, utilitaire. Voilà, on fait la cueillette, la chasse, etc. Et puis, il y a un moment où, quand la vie sociale s'intensifie, eh bien, ça crée des phénomènes qui relèvent du sacré. Cette double morphologie, Durkheim la retrouvera dans le rythme de vie aussi des tribus australiennes. Mais c'est Durkheim qui, au terme d'un travail de 20 années, charpentera les thèses de son école, que la religion fut la première des institutions humaines, et donc que toutes les autres institutions en sont sorties, dans les deux sens du mot, d'ailleurs sorties, c'est-à-dire un peu comme un enfant sort de ses parents, c'est-à-dire en est issu, mais aussi un jour ou l'autre doit sortir des jupes de sa mère, ce qui est arrivé aux autres institutions qui se sont laïcisées par rapport à la religion. Que le centre de la religion est dans le sacré, que le sacré est une réalité objective, pour autant qu'il est extérieur aux individus, que l'idée de sacré a un rapport à celle de société prise comme une totalité. Et Durkheim présente d'ailleurs ce programme de recherche comme une sorte de troisième voie entre dans les conflits de l'époque, où les théologiens, évidemment, disaient que le tout de la religion était tombé du ciel, et où les les opposants à toutes les dogmatiques théologiques disaient que la religion était du vent et qu'il n'y avait plus rien à chercher là-dedans, que c'était des systèmes périmés et que ça ne nous apprendrait plus grand-chose sur l'homme et les sociétés. Durkheim, au contraire, pose le principe qu'une science de l'homme en société est peut-être d'abord une science des religions. C'était courageux pour cet homme qui est un laïc convaincu, un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, mais qui est, je le dis toujours, une sorte d'apax dans la laïcité française. C'est sans doute dû d'ailleurs aussi à son judaïsme et à sa forte culture rabbinique dont il avait été imprégné depuis son enfance. Donc pour lui, la science de l'homme, sans la science des religions, serait mutilée, car la religion fut la première des institutions. Alors ceci heurte au moins trois tendances, je le dis tout de suite. D'abord, le marxisme, qui pense que l'homme a créé ses institutions par le travail, autour du travail et autour de la production, donc la chasse, la pêche, l'agriculture, et donc la possession des moyens de production, donc que la base des sociétés serait économique. Cette thèse n'est plus guère défendue aujourd'hui parce que le marxisme n'a plus l'autorité qu'il a, mais elle revient en force avec le libéralisme qui veut nous dire on va refaire la société sur la base de l'économie. Cette thèse de Durkheim s'oppose aussi à une thèse plus classique dans la gauche française qui est qu'au fond, et qui est défendue aujourd'hui très brillamment par Marcel Gauchet qui lui a redonné, à mon avis, la meilleure formulation, que la base des sociétés est fondamentalement politique et que la religion est peut-être un phénomène important, mais qu'elle est fondamentalement au service de la politique. Et elle s'oppose à la thèse que défendra Lévi-Strauss au milieu du XXe siècle, que la première des institutions serait la parenté. C'est par la circulation des femmes, assurant, évidemment, condition de l'assurance de la survie des groupes, qui doivent se pacifier pour que ces femmes puissent circuler entre eux, et que donc l'alliance, au fond, l'alliance matrimoniale pour Lévi-Strauss est le fondement de la parenté et la première des institutions. Alors Durkheim, au cours du XXe siècle, est apparu un peu vieilli avec son idée qu'au contraire, ce serait la religion. Alors essayons quand même de faire comprendre quelques points de cette position. Ce qui distingue l'homme de l'animal, pour lui, c'est l'importance de la civilisation et de la socialisation. L'homme est un animal, mais dans lequel la socialisation prend une sorte d'excroissance. Or, cette socialisation est en rapport avec le phénomène religieux, qui n'est pas d'abord un phénomène subjectif, ou un état d'âme individuel, ou un sentiment de type moral ou mystique, mais qui a été un fait collectif, institutionnel, reçu de l'extérieur, comme quelque chose qui s'est longtemps imposé aux consciences. Bien sûr, il existe aujourd'hui un individualisme religieux, et nous sommes dans des sociétés laïcisées, mais précisément, ces faits sont récents, et ils sont typiques de l'Europe contemporaine. Si on veut comprendre les phénomènes religieux, il faut au contraire utiliser l'ethnographie pour aller voir des sociétés beaucoup plus traditionnelles dans lesquelles on pourra constater le caractère primitivement social et institutionnel du phénomène religieux. Il a repris toutes ses thèses dans un ouvrage majeur de 1912, « Les formes élémentaires de la vie religieuse », qui est d'ailleurs un livre admirablement écrit, et dont on ne peut que recommander la lecture, même s'il a forcément des parties plus vieillies, mais qui reste un livre majeur, et où il dit « Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée Église tous ceux qui y adhèrent ». On peut discuter cette introduction du concept d'Église, bon, qui est venue ici pour essayer de distinguer la religion de la magie. Je laisse ce problème. L'important ici, c'est l'introduction de l'idée de système et de l'idée de sacré. Qu'à l'époque, les religions des primitifs puissent être, ceux qu'on appelait des primitifs, puissent être considérées comme des systèmes, c'est quelque chose qui n'allait pas du tout de soi, puisqu'on y voyait des ramassis d'absurdité. Durkheim est un de ceux qui ont imposé que la pensée humaine, dès le départ, est une pensée classifiante, et que les religions sont des systèmes structurés, et que la structure principale est l'opposition du sacré et du profane, qui en est pour lui l'élément, on peut dire, définitoire, caractéristique, la marque du phénomène religieux. Ah ben, décidément. Alors, de nombreuses institutions, d'ailleurs, portent encore aujourd'hui la marque de leur origine sacrée pour Durkheim. La prohibition de l'inceste, par exemple. Ou bien, ce qui est peut-être plus étonnant, mais, et là, il y a des pages extrêmement importantes chez Durkheim, la propriété privée. Elle ne fut pas d'abord un droit commun ou reconnu au commun des mortels, mais un tabou préservant des biens réservés aux dieux invisibles ou visibles, c'est-à-dire les rois et les grands. Et d'ailleurs, elle a été après, on pourrait dire, démocratisée, elle l'est d'ailleurs encore aujourd'hui fort imparfaitement, mais elle serait véritablement d'origine religieuse, car précisément l'idée de propriété, c'est l'idée de séparer de la circulation commune. Enfin, Durkheim est intervenu dans un immense débat qui sans doute domine toute la question du sacré, qu'est la question du sacrifice. En 1897-98, Huber et Mauss, ses complices, Mauss était son neveu, écrivent un texte, essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Ah ben décidément, j'arrive pas à l'éteindre. Ce... Ah. Et donc, qui nous disent, le sacrifice est comme un drame. Et ils ont eu le mérite de dégager les actants, pas les acteurs, ils varient les acteurs, mais les actants, c'est-à-dire les rôles fondamentaux, nécessaires et suffisants pour qu'il y ait sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrificateur, il faut qu'il y ait un ou des sacrificateurs, il faut qu'il y ait un sacrifiant, qui peut être le roi, ou qui est celui dans le bénéfice duquel est offert le sacrifice, et il y a une victime et des destinataires. Et ils disent la deuxième chose, ce qui fait la spécificité du sacrifice, c'est que c'est comme un meurtre qui se produit là. Alors, et donc, Durkheim reprend ce dossier dans une conférence avec eux, dans une correspondance avec ses auteurs, qui est extrêmement intéressant, où il montre que justement, il y a une énigme de la destruction dans le sacrifice. Car la destruction n'est pas du tout celle de tuer, comme on le ferait simplement, si vous voulez, pour manger ou préparer un repas, comme quand vous tuez un poulet. Mais il rapproche au contraire certaines pratiques sacrificielles de certaines pratiques du droit pénal. L'idée de Durkheim, c'est que le droit pénal est sans doute la forme la plus archaïque du droit, qui conserve les comportements les plus irrationnels, entre guillemets. Et que, précisément, dans le sacrifice, ça se manifeste comme un excès de zèle à détruire, où il voit une réaction passionnelle du groupe à l'égard d'une victime, comme si on se vengeait sur cette victime, comme si on voulait faire passer quelque chose sur elle. Et là, il y a des réflexions de Durkheim qui sont tout à fait fondamentales et qui, malheureusement, n'auront peut-être pas toutes les conséquences qu'elles méritent, sauf, justement, comme on le verra, dans la perspective de Girard. Enfin, pour Durkheim, il est peu probable que le sacré disparaisse. Dans la société contemporaine, laïcisée et pluraliste, on ne peut plus, nous dit-il, se mettre d'accord que sur un sacré, celui de l'égale dignité de la personne humaine. Le sacré est donc subjectivisé, intériorisé, moralisé et universalisé. Le seul sacré qui nous reste, c'est le respect de la personne humaine, et ça va bien avec son idée des droits de l'homme, qui sont en quelque sorte une charte qui consacre ce caractère de la personne humaine. Néanmoins, dit-il, et là il défend une thèse qui est loin de faire l'unanimité, il dit « la Révolution française a été un moment producteur de sacralité. Elle n'a pas seulement détruit la sacralité de la vieille monarchie ou voulu détruire le sacré chrétien ou catholique, elle a aussi produit son sacré. Et donc on ne peut pas exclure qu'il n'y ait dans l'avenir des crises dans l'histoire humaine, des moments de très grande perturbation, des moments que Durkheim appelle d'effervescence, ce mot est très important, c'est des moments d'effervescence collective d'où ne sortiront des formes nouvelles du sacré. Alors concluons ici. Durkheim nous dit, au fond, le sacré s'oppose au profane, et ce qui caractérise structurellement ce sacré, c'est qu'il est ambivalent, puisqu'il apparaît tantôt comme pur et tantôt comme impur. Et on le voit bien autour de la victime, par exemple, les profanes ne peuvent pas toucher la victime, ce serait impur, et elle est impure pour eux, et elle serait dangereuse pour eux. En revanche, le prêtre, s'étant purifié, peut procéder au meurtre de la victime et y toucher. Donc il y a cette ambivalence du pur et de l'impur. Et donc c'est ainsi que, volens nolens, on peut dire qu'en France, Durkheim a lancé, à l'aube du XXe siècle, ce que j'appelle la guerre du sacré, et qui a occupé tout ce siècle, et sans doute occupera une partie de celui dans lequel nous sommes. Dans deux directions, vous ai-je dit, d'une part, on a contesté, donc, que le sacré fût lié à un phénomène social. Au fond, l'idée de Durkheim, c'est que le sacré est lié à un phénomène social, lié à la socialisation humaine. Et la contestation est venue d'Allemagne avec un grand livre de Rudolf Otto, grand théologien allemand, très grand érudit, connaisseur du sanskrit et des religions indiennes, spécialiste du mysticisme, qui écrit un livre en 1917 qui s'appelle « Le sacré », où il ne cite nulle part Durkheim, mais je pense que c'est lié au contexte particulièrement polémique de l'époque et que, par une réserve qui l'honore, il n'a pas voulu mélanger le nationalisme et la recherche. Et donc, il ne cite pas Durkheim. Mais enfin, manifestement, il le réfute, il veut le réfuter, en montrant que le sacré est une perception sui generis d'une réalité dont on peut en quelque sorte faire la description phénoménologique, c'est qu'il se caractérise parce qu'il attire, il est fascinant, comme il dit, et il fait peur, il est tremendum. Donc il y a une ambivalence fondamentale du sacré. Mais c'est un sentiment donc, qui se définit par cette polarité entre l'attrait et la répulsion. Il se retrouve dans toutes les religions, car il est beaucoup plus fondamental que le divin, qui lui est plus intellectuel, plus changeant, lié à des constructions théologiques plus particulières. Et comme en allemand, heilig veut dire à la fois sacré et saint, et que dans le mot saint, il y a une connotation morale qui n'appartient pas au sacré primitif, il va créer un mot pour dire le sacré brut, sans connotation morale, qu'il a, à partir du latin numen, il fera l'adjectif numineux. Alors l'influence de Otto a été considérable parce qu'il réveillait des thèmes propre, je dirais, à la tradition d'approche subjective du phénomène religieux qui domine à bien des égards toute la pensée protestante qui a commencé par une insurrection de la foi subjective contre l'institution. Et donc on pourrait opposer l'approche typiquement protestante de Otto qui maintient des courants qui sont de là, chez Schleier, Macher et d'autres, à celle de Durkheim, marquée par le judaïsme légaliste de tradition pharisienne, centrée autour de la loi, ou qui a un œil toujours sur l'institution catholique. Alors, vous voyez, pour Otto, le sacré est une sorte de sentiment et de forme a priori de la sensibilité qui loge quelque part dans la structure de l'esprit humain, de la subjectivité humaine, entre, disons, d'un côté, le sentiment moral, qu'en bon kantien, Otto est un néo-kantien, qu'en bon kantien, il l'attribue et qu'il caractérise par le sentiment du devoir, et le sentiment esthétique, qui relève du sublime, etc. Le sentiment religieux a sa place dans la structure de l'esprit humain entre ces sentiments et il est caractérisé par la relation au sacré. Alors, je n'ai pas développé dans mon livre tous les aspects de ce débat sur les subjectivistes, si j'ose dire. Il y aurait beaucoup à dire. Peut-être qu'un jour, je reviendrai là-dessus, en particulier pour parler du collège de sociologie qui, dans l'entre-deux-guerres, a eu une influence tout à fait importante en France. Mais on retrouverait ces débats chez Eliade, même si Eliade, qui est un historien des religions assez connu, que je discute longuement dans mon livre, procède à un mixage pour nous expliquer que le sacré est à la fois subjectif et objectif, qu'il est originel, mais il ne veut surtout pas qu'on revienne à la thèse durkheimienne d'une origine sociale du sacré. Voilà donc le premier conflit. Le deuxième conflit, eh bien, c'est celui du sacré et du symbolique, qui va apparaître dans les années 50 avec l'essor extraordinaire de Lévi-Strauss, qui va essayer une théorie complète des cultures, mais cette fois-ci en mettant de côté la catégorie de sacré. Pour Lévi-Strauss, c'est un peu une catégorie inutile, et donc il ne rentre pas dans le débat de savoir si le sacré est d'abord d'origine objective ou subjective. Et ça, on peut le montrer, par exemple, qu'à propos de son livre de 1965, « Le totémisme aujourd'hui ». La thèse de Durkheim, en 1912, c'est de montrer que le totémisme est la forme élémentaire de la vie religieuse. On y trouve des classifications, on y trouve des groupes qui se créent autour des totems, et on y trouve des pratiques qui sont déjà des pratiques sacrificielles. Donc, le totémisme des Australiens et la forme élémentaire, comme il le dit le titre de son livre, de la vie religieuse. Lévi-Strauss détruit complètement cette thèse en disant « Mais l'animal ou la plante totem, ou plutôt leur espèce, n'est pas du tout une réalité sacrée, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est un outil conceptuel qui entre dans une série avec d'autres espèces dont elles se différencient par certains traits qui permettent de penser par analogie ou par homologie les différences et les ressemblances entre des groupes d'hommes. Si un clan dit « nous, on est des aigles », alors qu'un autre clan dit « nous, on est des corbeaux », c'est pas qu'ils adorent ou qu'ils auraient une relation religieuse ou mystique avec cet animal, c'est qu'ils opposent l'aigle et le corbeau, par exemple, comme l'aigle est un chasseur de plein vol qui attaque des proies vivantes, alors que le corbeau se nourrit en charognard, qui mange donc des proies mortes. Et donc, c'est la différence entre le comportement des deux espèces que relève la pensée classifiante. Là-dessus, il est d'accord avec Durkheim que la pensée humaine est une pensée classifiante, mais il n'y a rien de sacré dans cette affaire. Et dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, un texte de 1950, Lévi-Strauss lance sa définition de la culture, très célèbre, qui a une influence colossale sur la pensée française contemporaine. Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques, au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science, la religion. Vous voyez que ceci est l'inversion de la thèse de Lévi-Strauss qui dérivait la société et la culture de la religion et les mise ici in fine comme la cinquième roue du carrosse. Alors je ne veux pas évoquer ici toutes les conséquences de ce choix, sinon qu'il a suscité une réaction de la part de René Girard, qui est le dernier auteur que je citerai. Alors, chez Girard, il y a trois thèmes fondamentaux. Le premier, c'est que le désir humain est mimétique. Nous pensons qu'habituellement, que le désir est l'élan d'un sujet qui est porté vers un objet. Donc, voilà. Et que, parce que cet objet est beau, bon, et va lui apporter une complétude et un bonheur. Girard nous dit que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué. Le désir humain est mimétique parce que nous désirons des objets qui nous paraissent désirables et ils nous sont d'autant plus désirables qu'ils sont désirés par d'autres. Donc, entre le sujet et son objet, il y a son modèle. Et le modèle est en même temps le rival. Et par conséquent, le désir humain est gros d'une violence rivalitaire. C'est, si vous voulez, la thèse du désir mimétique. Cette thèse, elle ne vient pas de la religion, elle vient de la lecture d'une remarquable, d'ailleurs, interprétation des grands romans. Girard pense que la littérature est tout sauf de la littérature au sens vulgaire du terme, c'est-à-dire quelque chose qui parle de pas grand-chose ou pour se distraire. Il fait une théorie du roman moderne dont il pense qu'il est dominé par le mimétisme et que précisément par le problème du mimétisme. Aussi bien Don Quichotte, hein, qui veut réaliser son modèle Amadis de Gaulle qu'il trouve dans les romans de chevalerie et puis qui se prend pour ce qui n'est pas. Hein. Donc, pour Girard, justement, l'identité humaine est construite sur la mimésis. Et c'est pourquoi elle est toujours potentiellement violente. Alors, à partir de cette première approche, il est allé étudier le théâtre, Shakespeare et le théâtre grec. Et là apparaît un deuxième concept. Qu'est-ce qu'il dit ? Sa théorie de la tragédie, c'est de dire la tragédie est la mise en scène d'un conflit. Et un conflit qui se termine mal, qui se termine par la destruction en général. Et ce conflit est l'illustration de la crise sacrificielle. Il crée ce concept de crise sacrificielle qui est extrêmement important. De même, si vous voulez, qu'une crise économique ou une crise politique, c'est un dysfonctionnement des institutions qui, à un moment ou l'autre, se défont et vous montre justement de quoi elles sont faites, hein, ou ce qui leur manque. La crise, évidemment, un petit peu comme la maladie pour le médecin, permet d'aller voir un petit peu à l'intérieur des choses. La crise sacrificielle vous montre comment ont été faites les institutions humaines sur la base du sacrifice. Or, qu'est-ce que c'est que la crise sacrificielle ? C'est l'estompement des différences, précisément dans la mimésis. L'exemple typique, c'est ce qu'il appelle la stichomythie dans les débats tragiques. Vous savez quoi ? Mais vous avez ça sur les cours d'école. Vous savez ? Menteur, non, c'est toi. Espèce de menteur, non, c'est toi. Vous voyez ? La différence... normalement, il y a une différence entre un menteur et un non-menteur. Mais le conflit vient quand on ne peut plus dire qui est menteur et qui ne l'est pas, et que le terme circule entre les deux. Et ça peut être entre le père et le fils. Et alors, à ce moment-là, ça se termine par une gifle. Et puis si le fils répond, ben, ça se termine par une bagarre. Et alors, après, c'est la différence du père et du fils qui saute. Et donc, la tragédie, c'est quoi ? C'est les différences qui sautent les unes après les autres. La crise sacrificielle, c'est l'épreuve des sociétés humaines quand les différences sautent les unes après les autres sous l'effet de la violence mimétique. Et ceci est donc la tragédie déconstruit ce que le mythe a construit. Car ce qui fonde la différence, c'est le mythe. Autrement dit, la crise sacrificielle montre que le mythe fondateur ne fonctionne plus. Et le troisième grand thème de Girard, c'est le thème du bouc émissaire, bien entendu, qui est que cette idée qu'au sommet de la crise mimétique, dans des hordes humaines, comment on a pu en sortir ? On en est sorti par un mécanisme totalement inconscient et non voulu, mais émergent. C'est un phénomène que reprendront les théoriciens contemporains sous le thème, justement, des phénomènes émergents. Eh bien, le groupe, c'est la guerre et la lutte de chacun contre tous quand il n'y a plus de différence. Et donc le groupe peut s'autodétruire, et ça a dû arriver à des groupes humains, mais certains s'en sont sortis parce que, un petit peu comme les moutons qui tournent en rond là, quand ils ne trouvent pas d'issue, mais s'il y en a un qui prend une issue, ben, tous les autres suivent. Alors ici, lequel qu'on suit ? On suit le bouc émissaire, c'est-à-dire celui qu'on va exclure du groupe et qui va apparaître comme la cause du mal et en même temps comme le sauveur du mal, car le fait que tous se retournent contre la victime émissaire refait l'unité du groupe. Et c'est ce processus d'éjection, hein, d'exclusion qui est à la base du mécanisme émissaire que la pratique sacrificielle rappelle, mais en la déplaçant, en la transférant sur une victime, car évidemment, s'il fallait à chaque fois faire prendre un bouc émissaire dans le groupe, le procédé serait trop coûteux, trop dangereux et remettrait de la violence dans le groupe. Et donc le sacré, dans sa base, ou la religion, c'est le système qui contient, mais au sens du mot français contenir, où la carafe contient l'eau, mais au sens, et c'est pas un hasard si ce sens est ressorti avec la guerre froide, de l'anglais « containment », n'est-ce pas ?« contain », c'est-à-dire « retient » la violence, hein, par des moyens violents et symboliques, en réifiant la violence dans une extériorité par rapport au groupe. Ainsi, le sacré, c'est précisément c'est la violence que le groupe, c'est la violence du groupe mise hors du groupe, au-dessus du groupe, et gardée par le groupe comme une instance à la fois présente et menaçante par rapport auquel il va se situer. Alors, à partir de là, on peut déjà tirer, me semble-t-il, un certain nombre de conclusions. De nos jours, donc, dans notre monde sécularisé et grandement désacralisé, beaucoup des objets qui ont été sacralisés ont disparu ou sont obsolètes. Le sacré est devenu une notion incertaine. Mais néanmoins, vous voyez qu'il peut encore susciter des débats, et le XXe siècle, peut-être dans des milieux restreints de savants, en a été plein. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Ce n'est pas un hasard si l'école sociologique française a été divisée sur cette question, s'est divisée sur cette question, et que la question du sacré y a comme opéré un schisme. Pour l'historien des religions, c'est tout à fait intéressant. Et que le débat est entre les structuralistes et les durkheimiens, disons, entre guillemets, parce que ça ne convient guère à la science orthodoxe, c'est que pour les durkheimiens, au fond, l'homme est un être social par le fait qu'il parle. À partir du moment où il parle, et qu'il est un être parlant, eh bien, il est pris dans le langage, il est pris dans l'échange, et la socialisation en découle, et à partir de là, évidemment, il peut contracter, etc., et donc construire ses sociétés. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'une théorie de la culture ne peut pas remplacer une théorie de la société et du pouvoir, et que toute société et tout pouvoir est construit sur des phénomènes d'exclusion, plus ou moins fortes, plus ou moins dissimulées, et que justement la culture peut très bien tenir de très beaux discours de l'universel, mais dans les pratiques effectives, il y a toujours des phénomènes beaucoup plus complexes liés à la violence, et que pour devenir un être de parole et capable même de contracter, l'homme doit se socialiser, et pour se socialiser, il doit se libérer d'une partie de sa violence interne, soit par transfert, par refoulement et ou par sublimation. Ensuite, dans mon livre, vous voyez, j'ai essayé de montrer que je crois que si on veut avancer dans cette question du phénomène religieux, il ne faut pas jouer le sacré contre le symbolique, comme le font certains, ou le symbolique contre le sacré, comme l'ont fait les structuralistes, mais il faut prendre les deux aspects. L'homme est à la fois un être de langage, et par conséquent, potentiellement, un être de raison, puisque la raison n'est qu'une forme épurée et collectivement contrôlée du fonctionnement langagier, il suffit de lire Platon pour s'en rendre compte, mais il est aussi un animal social beaucoup plus obscur, beaucoup plus complexe, avec des refoulements, avec des fantasmes, et avec des obsessions et des angoisses, et que là, le sacré est une bonne voie pour rentrer dans cette face peut-être plus obscure. Et j'ai défendu la thèse donc, que Durkheim ne s'était pas du tout trompé en mettant le sacré au centre de la réflexion sur le phénomène religieux, et qu'on pouvait continuer sa réflexion sur l'effervescence par la réflexion de Girard. La théorie du bouc émissaire s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'effervescence, et que Girard complète admirablement Durkheim en montrant que le sacré, le plus primitif, dans sa forme la plus brutale, presque infra-humaine, c'est la réification du groupe humain. Mais je n'ai pas traité dans mon livre, ni ici d'ailleurs, le point qui est le plus difficile, si on admet cette hypothèse, c'est que les petits dieux et les grands dieux portent plus ou moins la marque du sacré, puisqu'ils en sont évidemment issus. Mais la grande question de l'histoire des religions, c'est de savoir comment les dieux se sont intellectualisés et ont dépassé cette ambivalence du sacré. Mais il en reste toujours quelque chose, il reste toujours quelque chose de l'ambivalence du sacré dans les figures divines, même si, justement, certaines religions ont beaucoup plus intellectualisé leur vision du divin, en particulier le christianisme, d'ailleurs peut-être en partie aussi par un dialogue très précoce avec la philosophie grecque, et qui continue d'ailleurs pendant tout le Moyen-Âge. Mais justement, notre intellectualisme traditionnel dans l'approche du phénomène religieux nous empêche des fois de poser l'extrême complexité de la dialectique du sacré et du divin, et je pense que pour comprendre la richesse et la complexité des religions concrètes, il y a là une voie d'accès importante. Toutes les religions, au bout du compte, n'ont pas gardé le même rapport au sacré ou n'ont pas élaboré le même rapport au divin, et surtout n'ont pas séparé ou distingué de la même façon le sacré et le divin. Et donc, ça m'amène à une réflexion tout à fait importante, c'est que, à cause de notre intellectualisme de tradition philosophique et chrétienne, d'ailleurs, le christianisme est une religion, j'allais dire, terriblement intellectuelle, hein, et je ne pense pas heurter nos, j'allais dire, mes frères protestants, je ne suis pas protestant, moi je suis de tradition catholique, mais en disant que dans le protestantisme en particulier, l'intellectualisation a été sans doute souvent beaucoup plus poussée, au moins à l'époque moderne, que dans le catholicisme, qui a gardé quelquefois, et surtout après la rupture, qui a gardé des aspects religieux plus traditionnels. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, dans notre culture française, nous avons encore un vocabulaire du sacré qui l'oppose au profane, mais la catégorie du pur et de l'impur nous est beaucoup plus obscure. Et elle est en partie pratiquement... Bon, alors je sais bien que Dieu sait si on reproche aux chrétiens d'avoir encore gardé du pur et de l'impur, en particulier dans le domaine de la sexualité, mais en dehors de ça, il n'y a pratiquement pas pur et d'impur dans le christianisme, en particulier dans la cuisine. Ce qui, alors que dans un tas d'autres religions, c'est quotidien dans la cuisine. Et donc, quand nous parlons du problème du sacré, il ne faut pas le réduire au problème du sacré et du profane. Il faut penser ce que j'appellerais, par analogie avec les linguistes, la double articulation du sacré. C'est que il y a le sacré et le profane, mais le sacré a cette polarité, cette ambivalence fondamentale qu'il peut être ou pur ou impur. Alors, dans les rituels, il est très opposé. Tous les rituels visent toujours à séparer le pur et l'impur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le même. C'est-à-dire qu'une faute dans le rituel, un incident, une mauvaise pensée, peut toujours faire basculer les choses et ce qui était pur va devenir impur. Et donc... Et je crois que là, il y a un deuxième trait tout à fait fondamental pour comprendre aussi la différence des cultures. Je connais un peu le monde indien. En Inde, la séparation du sacré et du profane est difficile à établir. Qu'est-ce qui n'est pas sacré en Inde? Tout est sacré. Les vaches, les dieux sont partout. Il y a du sacré partout. On se demande s'il reste beaucoup de profane. Mais où la différence avec la culture indienne et la culture hindoue et la nôtre, c'est que nous, on voit bien un retrait de la distinction du pur et de l'impur, alors qu'en Inde, elle est fondamentale, elle est dans la cuisine, et même, elle sépare les hommes, puisqu'il y a des brahmanes qui sont purs et des intouchables qui ne le sont pas. Alors ce point est tout à fait important pour voir les degrés de rationalisation et d'intellectualisation des phénomènes religieux. Alors ça inspire un schéma de la religion à mon avis, plus complexe que celui qu'on donne d'habitude. Et moi, je propose justement qu'on aborde les phénomènes religieux à trois niveaux. Il y a les problèmes des idéalisations, des rationalisations et des épurations religieuses qui vont, en effet, vers le sacré pur ou le divin. Et c'est ce que j'appelle le religieux par en haut. Il y a le religieux par le milieu, qui est les institutions religieuses dans lesquelles on voit très bien les jeux du profane et du sacré. Et puis, il y a le religieux par en bas, qui est justement le domaine du refoulé, le domaine de l'impur, de tout ce qui est dangereux et contagieux. Car le sacré impur est toujours dangereux et contagieux dans les circonstances où il est impur ou qui le rend impur. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'est en soi, mais qu'il l'est dans ces circonstances-là. Le pur, au contraire, est toujours fragile parce que toujours plus vulnérable que l'impur. Ces remarques aident à dépasser les difficultés de déchiffrer certains discours et des pratiques du sacré qui nous paraissent souvent contradictoires. Comment comprendre que telle chose puisse être sacrée parce qu'elle est puissante, voire superpuissante, ou au contraire qu'elle est sacrée parce qu'elle est toute fragile et faible? Les hommes ont sacralisé les choses les plus violentes de la nature, comme la foudre ou l'éclair, ou de la collectivité, comme la guerre, ou de l'individu et de l'espèce, comme justement la sexualité ou l'orgie. Ou au contraire, quelquefois, ils ont sacralisé la faiblesse, l'étranger dans les sociétés à hospitalité, ou l'enfant dans notre société moderne peut-être. Eh bien, je crois que ceci s'éclaire si on voit que le sacré, avec la distinction du pur et de l'impur, est au départ un système de protection qui opère en créant une relation de séparation Et oui, la propriété, c'est ce qu'on met de côté, au sens premier, hein, séparé du profane, en mettant une distance, qui peut d'ailleurs aller jusqu'à l'expulsion et à la destruction, mais qui est une condition du contrôle de la relation ou de l'interaction quand cette interaction est trop asymétrique. Ainsi, tantôt le sacré doit préserver ou protéger le profane. C'est par exemple pour ça qu'on va bénir un mariage. Le sacré va sacraliser le lien, donc il va le protéger. Hein ? Et tantôt, au contraire, c'est le sacré qui doit être protégé du profane. Alors une comparaison vous fera peut-être comprendre ce que je veux dire. Dans notre représentation commune occidentale, ça n'est pas vrai de toutes les cultures, l'homme est un être axiologiquement supérieur à l'animal. Dans la culture occidentale, ça ne serait peut-être pas vrai dans beaucoup de cultures, hein, mais quoique tous les animaux ne sont jamais sacrés. Mais il y a des animaux très sacrés, puis d'autres qui ne le sont point. Mais dans la culture occidentale, il n'y a pratiquement pas beaucoup d'animaux sacrés, je ne crois pas. L'homme, en revanche, a une charge axiologique très forte. Ceci correspond à la première articulation du sacré, où l'homme est sacré par rapport à un animal qu'on va dire profane. Mais quand un homme est face à un lion ou à un requin, il y a un danger. Si le danger est pour l'homme sacré et pur, le lion ou le requin représente donc le sacré impur. Dans les cirques, c'est le lion qui est enfermé dans la cage. C'est lui qui est sacralisé au sens de mis à part, par le rituel, parce qu'il est dangereux. Mais dans les plongées sous-marines, dans les mers infestées de requins, c'est l'homme qu'on descend dans une cage. Et vous voyez ici comment, avec une même relation asymétrique, Anna peut employer différemment, le même truc rituel, ici séparé par une cage, qui peut protéger et peut fonctionner sur les pôles matériels opposés de la relation asymétrique. Du point de vue de notre idéologie, seule la vie humaine est sacrée. Mais le lion ou le requin, pouvant l'attaquer, ils sont comme un sacré impur qu'il faut contenir. Mais pour y parvenir, le rite peut mettre soit l'homme, soit le lion dans la cage. Si demain nous nous convertissions à une deep ecology, hein, cette écologie radicale, qui pense au contraire que la sale bête négative, dangereuse, c'est l'homme, et que le lion ou le requin sont mis en danger par ce tueur universel, on aurait une autre idéologie du sacré et du profane, mais qui pourrait fonctionner avec le même système de cage, mais cette fois pour protéger les animaux, qui seraient le sacré, mis en danger par l'homme porteur d'un sacré impur. C'est parce que l'homme, comme le lion aussi d'ailleurs, est finalement toute chose, peut être tantôt dangereux, tantôt vulnérable, qu'il peut être tantôt frappé de l'équivalent d'un sacré impur ou d'un sacré pur. Alors, dans les sociétés modernes, les champs du sacré se sont restreints parce qu'ils se disent moins dans le langage de la transcendance. Mais ont-ils disparu du domaine de l'immanence? Ce n'est pas sûr. Et justement, je crois que ce débat sur le sacré est fondamental, parce qu'il nous montre que la modernité a joué comme une mondanisation du christianisme, avec quelquefois l'idéal optimiste de réaliser le royaume de Dieu sur terre. Et donc certains ont pensé que les vieilles barrières du sacré étaient totalement obsolètes, que c'était des tabous absurdes et liés à des superstitions dépassées. Ce serait évidemment une autre conférence de se demander si les fantastiques mutations de la modernité contemporaine, telles que certains parlent de postmodernité, marquées par la montée de nombreux périls, comme les questions écologiques ou la vie dans une société du risque, vont amener à des processus de resacralisation de choses qui l'avaient été, ou à ce que j'appellerais des néo-sacralisations, sans doute pas, absolument pas religieux, mais immanents, et grandement analogiques, mais quand même des sortes de sanctuarisations. On est dans une époque où je vois quand même, dans la vie sociale, se créer beaucoup de, entre guillemets, sortes de sanctuaires, c'est-à-dire que ce soit des parcs écologiques, que ce soit des patrimoines, que ce soit, on voit cette volonté de mettre à part un certain nombre de choses qui auraient besoin d'être protégées. Si le sujet vous intéresse, dans son œuvre en général et dans un ouvrage qui s'appelle « La marque du sacré », Jean-Pierre Dupuis, qui est un philosophe important et de tradition girardienne, a montré successivement, d'ailleurs en reprenant Girard, que la société moderne ou postmoderne, désacralisée, en grande partie d'ailleurs à cause du christianisme, néanmoins continue de porter ce qu'il appelle la marque du sacré. Et il le montre dans des phénomènes tout à fait contemporains, comme le transhumanisme, ou dans les pratiques électorales, ça je crois qu'il n'y a pas de doute, l'élection est typiquement un rituel, et c'est un rituel pour gérer pour refaire de l'unanimité dans une société qui s'est divisée rituellement, et c'est une ruse avec la violence du groupe. Il montre que l'essor de l'économie actuellement est bien lié à l'estompement du sacré, et que si l'économie aujourd'hui peut prétendre devenir la science normative de nos sociétés, c'est parce qu'elles sont désacralisées, mais que ceci aussi pose d'énormes problèmes, parce qu'on ne sait plus quelles frontières mettre à l'économie, et qu'on sent peut-être qu'elle pourrait aussi, si elle fait tout passer dans l'échange, amener à des destructions irréparables. Et il montre que le catastrophisme est une des caractéristiques du monde contemporain, revenu avec la question nucléaire et Hiroshima, et que précisément la dissuasion nucléaire était fondée sur le principe d'une possibilité d'une destruction apocalyptique, et la destruction apocalyptique, c'est le maximum de la crise sacrificielle girardienne. Si une bombe atomique tombe sur Paris, ben, il n'y aura plus de différence. Il n'y aura plus de différence entre le président de la République et le clochard. Il n'y aura plus de différence entre l'homme et la femme, entre l'enfant et le vieillard, entre le riche et le pauvre. Et il n'y aura plus de différence entre les morts et les vivants. Hein. Donc, voilà. Et il plaide pour ce qu'il appelle un catastrophisme éclairé. C'est une idée extrêmement intéressante, où il nous dit « nous devons peut-être retrouver l'idée ». Alors il s'inspire à la fois des vieilles théories du sacré et aussi du prophétisme biblique, pour nous disant que pour éviter les catastrophes qui nous menacent, nous devons penser ces catastrophes au plus près, c'est-à-dire les prendre très au sérieux. Il dit « il faut penser au plus près de l'Apocalypse ». Mais justement, pour l'éviter, croire assez à la possibilité du malheur pour penser à l'éviter. Autrement dit, y croire sans y croire, tout en y croyant. Et que c'est précisément ça le rite. Dans les rituels anciens, on voit très bien, on s'est beaucoup posé la question sur la foi des primitifs. Ils sont pragmatiques, les primitifs, soit entre guillemets, qui n'en sont d'ailleurs pas. Mais ils nous disent peut-être, justement, nous vivons dans un monde dangereux. Alors avant d'agir, avant de planter ces salades, avant tout ça, eh bien, il faut prendre des précautions avec les dangers qu'il y a autour du monde. Ils y croient sans y croire, tout en y croyant. Eh bien, c'est peut-être, ça peut nous paraître quelquefois un peu sommaire, en effet, et je vous dis pas qu'il faut revenir à des formes de sacré périmé, mais il y a quelque chose qui donne à réfléchir là-dedans. Et je conclue donc, dans une société comme la nôtre, égalitaire en droit, mais pluraliste en droit et en fait, et c'est sans doute cette idée d'un pluralisme dans l'égalité est, me semble-t-il, sa vraie nouveauté, il est normal qu'on se batte sur les contenus du sacré. Et là-dessus, je serai de l'avis de Durkheim, peut-être, et encore, parce qu'il y a des transhumanistes, en dehors de la personne humaine, il y a guère de sacré sur lequel on soit d'accord aujourd'hui. Et encore, je vous dis, les transhumanistes ne seraient peut-être pas d'accord. Mais ceux qui s'affrontent ne semblent pas douter pour autant d'un certain bien fondé, d'utiliser cette catégorie, fût-ce sur un mode analogique, dérivé, métaphorique, mais au moins pour défendre ce qui compte à leurs yeux ou qui leur paraît menacé. Et donc les conflits portent plus sur la matière du sacré, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est vraiment, ou qui devrait l'être, que sur le fait de l'existence de la distinction et sur la nécessité, peut-être simplement pour vivre, de mettre à part certaines choses, certaines personnes, certaines institutions. Car ce qui me semble propre du sacré, qu'on l'applique à des choses immanentes, voire triviales, ou transcendantes, ou, comme c'est peut-être son avenir dans nos sociétés, à des choses simplement vitales, c'est qu'il est distingué et mis à part, soit parce qu'il est trop fort et dangereux, ou parce qu'il est trop faible et menacé. Même réduit à ses plus simples expressions, le sacré objectif est au moins le contraire de l'indifférencié, et le sacré subjectif est au moins le contraire de l'indifférence. En ce sens, malgré ses excès, qui en font un carcan quand il est réifié. Je sais s'il y a des tabous dont on peut se passer. Et il faut soi-même, une fois de temps en temps, revoir les tabous. Donc, en ce sens, malgré ces excès qui en font un carcan quand il est réifié, ou cet art, dont la moindre n'est sans doute pas sa propension, qui est tellement fondamentalement humaine, à adorer la violence, le sacré a peut-être le mérite d'être au moins le contraire du nihilisme. Merci de votre attention.
L'interrogation de l'être humain,
la création d'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Une cuisine est le reflet d'une époque.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
Est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique?
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Il y a beaucoup de choses en nous.
Les particules élémentaires.
Nous ignorons.
Je veux bien répondre quand même.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Vraiment, ça ne sert à rien.
Si bien qu'au fond, on s'aperçoit de plus en plus que...
Das Kapital, une dipoder Kapitalismus.
L'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
La science est un discours.
Du 4 novembre 2009 au 16 juin 2010. À la découverte de nos origines. Une trentaine de grands conférenciers vous invitent à un voyage au cœur de leur discipline. Astrophysiciens et biologistes, philosophes et historiens, théologiens et anthropologues se succèdent. Le mercredi soir à 20h30, salle Rabelais,